générique nous annonce bien, mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous choisir. Nous sommes au rendez-vous, bien sûr. Nous sommes au vendredi 7 juin 2024. Il sonne 11h sur votre radio, la nouvelle génération. Et vous comprenez sans doute que c'est l'émission Club de la Presse qui démarre. Nous sommes au 5e numéro de cette émission pour le compte de cette semaine. La coordination de l'émission de ce jour est assurée par Michel Vitok Betomega qui est à la mise en onde. Jérôme Dakouta assure la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous et qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nekho, Radio La Paix à Takpame, Sky FM à Badou, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Koktoazi à Dapao. Vous avez ce privilège de nous suivre aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi, bien sûr, Dr Francisco Napokoura est là. Docteur, bonjour.
Oui, bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs et auditrices de Canal FM, la nouvelle génération.
A bien passé la semaine?
Cool, ça va.
Dieu merci.
Malgré la pluie et ses effets pervers. Mais ça va. Mais malheureusement, il ne pleut pas dans les zones où on fait de l'agriculture. On dirait que la pluie est massifiée sur Lomé. Or, quand vous voyez la zone de Kpalimé jusqu'à Takpamé dans le plateau, et même à Bassa, il ne pleut pas. C'est ce qui est
paradoxal.
Regrettable.
Et c'est regrettable aussi. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Firmin Tekouagbo, bonjour.
Bonjour Pascal Lossou, merci de m'avoir invité.
J'espère que tu vas bien et tu as bien passé la semaine.
Oui, bien évidemment, avec la grâce de Dieu.
D'accord.
Tout est bien frais, surtout avec cette pluie. On voudrait que la pluie apprenne de la décentralisation togolaise.
Tout à fait.
Qu'elle se décentralise.
C'est très important pour que les agriculteurs aussi soient contents.
Évidemment.
Il y a notre ami Monsieur Anani qui sera avec nous aussi dans le débat aujourd'hui. Monsieur Anani, bonjour.
Bonjour Pascal.
J'espère que vous allez bien. Parlez dans le micro.
Je vais bien, par la grâce de Dieu. On remercie le Seigneur.
On remercie le Seigneur, c'est l'essentiel. Alors, chers confrères, je vous invite même d'ailleurs à un événement qui aura lieu demain. Et cet événement, c'est bien la projection à l'heure de film Le Chant des Oubliés. Et son réalisateur est avec nous dans ce studio. Roger Bécou, bonjour.
Bonjour Pascal et bonjour à tous les auditeurs.
Roger, j'espère que tu vas bien.
Très très bien.
Dieu merci. Oui. Alors, nous admirons ce que tu fais.
Merci Jean, beaucoup.
Réalisateur, et nous savons quand même que vous avez eu quand même vous avez un palmarès aussi lourd en matière alors de la réalisation. Oui. Et ce film que vous allez projeter demain, c'est Le Chant des Oubliés. Oui. Alors concrètement, ça parle de quoi?
Alors, le film Le Chant des Oubliés, c'est un film qui parle de l'Afrique, de la réalité africaine. C'est un film qui parle de l'immigration, de l'entrepreneuriat des jeunes et surtout de la beauté africaine. Voilà.
De la beauté africaine. Mmh. Donc, ce qui veut dire que l'Afrique a une beauté à vendre, c'est ça?
Justement. Et qu'on ignore, malheureusement.
Et là, vous venez, à travers le film, vous explorez cette beauté pour que les uns et les autres arrivent à comprendre que nous avons une beauté à vendre.
À vendre et nous avons assez de richesses. À promouvoir. On peut rester ici et réussir. On n'est pas obligé d'aller de l'autre côté pour pouvoir forcément gagner sa vie.
Et là, c'est la question de l'immigration clandestine surtout, alors qu'il se pose.
Justement. Justement. Et c'est un thème qui est traité autrement. C'est vrai, les gens déjà parlaient de l'immigration dans leurs films. Mais nous, venez voir le 8 juin prochain, c'est-à-dire demain à partir de 18h30. Et vous allez comprendre de quoi il s'agit.
Et ça se passe où?
Justement, ça se passe au Palais des Congrès de Lomé à partir de 18h30. Il y a des artistes invités, du pop-corn, tapis rouge, tout ce que vous voulez pour une belle soirée.
Mmh. Alors, oui, moi, je voudrais quand même qu'on s'intéresse plus à la thématique traitée. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, les jeunes sont plus poussés par ce rêve d'aller conquérir l'Eldorado de l'autre côté de la mer. Mmh. Pour vous, est-ce que c'est mal en soi?
Oui et non. Oui, dans le sens où... on ne voyage pas forcément dans de bonnes conditions. Voilà. Et non, parce que on peut y aller. Je ne refuse pas de ne pas voyager, mais il faut voyager dans de bonnes conditions, aller étudier, aller faire d'autres échanges pour pouvoir venir construire son pays. Mais le fait d'aller, de ne pas être prêt, de ne même pas savoir où est-ce qu'on va et ce qui nous attend, c'est ça, moi, je déplore. Et puis, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rester ensemble pour faire ce qu'on... D'abord, ce qui se passe le plus souvent, c'est qu'on refuse de faire certains boulots ici. Mais quand on va de l'autre côté, ce qu'on fait est parfois pire que ce qu'on peut faire ici en étant en sécurité.
Justement, pire, mais c'est payant. C'est que on a
de l'argent. C'est là le piège, parce que c'est payant, certes, mais il y a quand même assez de billes à payer. Je ne sais pas comment le dire. Assez de...
De sacrifices à faire?
De sacrifices, oui. Mais il y a aussi des... Quand on prend...
Des difficultés, vous voulez dire?
Des difficultés. Quand on prend le thème... Les taxes, il y a assez de taxes. Oui. C'est-à-dire, tu travailles, certes, tu es payé, mais à la fin, c'est compliqué, parce que c'est pour ça que certaines personnes font 2-3 boulots dans la journée, et voilà, pour pouvoir joindre les deux bouts.
Comme quoi, ce n'est pas aussi facile de vivre de l'autre côté.
C'est pas du tout facile. Et malheureusement, c'est pas forcément... on ne nous dit pas forcément la réalité de l'autre côté. C'est-à-dire, ceux qui reviennent, ils essaient de nous montrer autre chose, alors qu'il y a d'autres réalités qui nous attendent souvent.
Et pour une immigration, ce que vous ne refusez peut-être, vous ne refusez pas, il faut vraiment se préparer pour ça.
Justement, il faut vraiment se préparer. Et quand on est bien préparé, même s'il y a les difficultés, on arrive à faire face. Mais quand on n'est pas préparé, parfois, on a envie de revenir, mais on ne peut plus. Et c'est là où on se donne à des choses qui ne dit pas forcément son nom.
Je vois Francisco qui bouillonne alors de questions à vous poser. Et Francisco, vous avez certainement une question pour Roger, c'est ça?
Non, ben, est-ce que c'est des questions? Peut-être c'est des contributions, parce que ce qu'il dit est très important, parce que il y a beaucoup qui sortent du pays. Hein. Et la dernière fois, j'étais avec un de mes collaborateurs venu du Canada. Il nous donnait les chiffres qui sont en attente d'entrer au Québec à partir du Togo. Justement. C'est effroyable. Et quand vous voyez toutes ces publicités qui se font autour de Campus France.
Oui.
Et il y a des écoles aujourd'hui comme ce que vous appelez le lycée scientifique. Et d'autres écoles, c'est, disons, carrément fait pour faire partir la jeunesse. Mais je ne sais pas si l'État... même sans rencontre, parce que en fait, c'est des enjeux. Les gens ont besoin, ça apporte quand même des valeurs et ajouter de l'autre côté. Alors que ici, et l'État s'en est occupé jusqu'à. Je vous dis que quand vous prenez par exemple l'école d'infirmerie ou santé du Togo, et pratiquement ceux qui y vont pour s'inscrire, vous allez voir rarement les enfants des pauvres ou des Togolais, beaucoup d'étrangers envahissent, et ils se préparent, c'est-à-dire que dès qu'ils ont le diplôme, ils partent. Alors qu'il y a un désert en termes de ces, compétences sur le plan local. Même quand vous allez à la faculté de médecine, vous allez voir, il n'y a que des gens qui ont des moyens, qui arrivent massivement à réussir, et parce qu'ils sont prêts pour partir. Donc, la production n'est pas pour le Togo, alors que le pays investit énormément. Maintenant, il y a les risques de voyage. Vous allez voir, aujourd'hui, depuis un moment, des gens quittent. On les descend au Mexique. Justement. Et on les descend au Brésil. D'accord ? Parce qu'ils veulent aller aux États-Unis. D'autres passent par le
dans des conditions très difficiles.
Mais je vous assure. Je dis, moi, j'ai su des gens depuis près de 4 ou 5 ans, j'en parle souvent, qui sont au Mexique. Des Togolais vouloir traverser et la frontière pour rentrer, et de par le Texas pour rentrer aux États-Unis. Ils n'arrivent pas. Quelle vie ! Il a dit un chemin de non-retour. Ils vont revenir pour faire quoi ? Dans le prochain Tampa Express, il y a une lettre pour un ami, d'accord ? C'est vraiment un compatriote qui a échangé avec un ami qui finalement a décidé de prendre le chemin du désert, et je crois que finalement il n'est pas arrivé, à bon port. Bon, bref, il y a de sérieux problèmes aujourd'hui,
Et je vais vous dire, j'étais avec, il y a quelques mois, j'étais avec un des responsables de la diaspora du Togo au niveau du Mali, qui me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Surtout ces temps de vacances qui approchent, les Togolais partent beaucoup vers le Sahel.
Surtout des jeunes.
Oui, vers le Sahel, vers le Mali, vers le Niger, où on dit qu'il y a l'insécurité, et vers le Burkina. Mais quand on vous parle aujourd'hui, comment est-ce que le Burkina est en train de bouger, même avec les Français dont on parle, qui ne sont pas en odeur de sainteté, avec les autorités de ces pays, hein, je vous assure que les gens sont en train de plier leurs bagages du Togo, même du Bénin, justement, pour aller s'installer. Les entreprises internationales pour aller s'installer au Burkina Faso. Moi, j'ai des exemples. Parfois, j'échange régulièrement avec des gens. Donc, bref, nous sommes en train de vivre un problème et je crois que l'initiative du frère est à louer. Merci. D'accord ? Parce que nous, tous, nous n'allons pas partir. Moi, par exemple, c'est depuis quand moi j'avais eu ma maîtrise que mes parents m'ont demandé, ben, est-ce que tu vas suivre tes amis, tu vas aller en Allemagne, aux États-Unis, chose parce qu'ils savent que j'ai beaucoup de personnes. J'ai dit non, si je trouve un travail ici, je vais y rester.
Vous êtes patriotique.
Et je suis resté. Mais avec le temps, parfois on a envie de regretter. Est-ce que c'était le bon choix de rester? C'est ceux qui sont partis, ceux qui ont décidé de partir tôt, d'être, quand vous voyez leur réalisation, est-ce que nous, avec nos terrains litigieux, ou bien nous n'étions
pas. Mais c'est pas tout le monde qui réussit aussi.
Hein. Oui, mais justement, mais moi, je ne vais pas échouer à l'extérieur.
D'accord. Roger, c'est vrai que c'est souvent les conditions de vie au pays, quand même, et qui font qu'à un moment donné, des gens se disent, mais écoutez, il faudrait quand même que je trouve une porte de sortie. Et là, on va ailleurs. Et là aussi, dans des conditions que nous connaissons, bien sûr. Et là aussi, c'est pour dire, votre film, je veux bien dire, c'est pour dire aussi aux jeunes que non, on peut facilement réussi aussi ici.
Vous savez, la faute est partagée, hein, que ce soit au niveau du
gouvernement. Justement, une responsabilité
partagée. Voilà, partagée au niveau des jeunes également. Et c'est d'ailleurs pour ça l'idée, c'est de faire une projection, une tournée nationale pour pouvoir montrer le film à toute la population togolaise et africaine.
Est-ce que les décideurs sont invités?
Bien sûr, ils sont invités. Depuis un moment, je cherche des partenaires pour pouvoir accompagner ce projet, pour montrer.
C'est le moment de leur lancer l'appel.
Alors, je vous invite à pouvoir accompagner ce projet, ce film qui a reçu plusieurs prix à l'international. Aujourd'hui, qui a eu meilleure fiction de l'UOMOA, meilleur son A+, meilleur scénario Canal+. Donc, je pense que c'est le film idéal pour tout Africain et pour tout Togolais. Pour qu'on puisse ensemble construire ce pays-là.
D'accord. Alors, si vous avez un contact à donner rapidement pour que des gens qui veulent alors vous contacter, quel est ce contact?
Alors, c'est le 91 44 49 11. Ou carrément aller sur la page du film Le Chant des Oubliés et vous allez avoir toutes les informations possibles.
Et le rendez-vous est pris pour demain?
Demain, justement, à 18h30 au Palais des Congrès de Lomé. Les entrées sont juste à 2000, 3000 et à 5000 francs.
Merci beaucoup, Roger Bekou, d'être passé alors dans cette émission.
Une invitation à Roger Bekou. Vous savez, nous sommes presque en train de rentrer dans les derniers moments de nos fêtes traditionnelles. Vous connaissez le pays Bassar avec des pontres Ndak, choses. Donc, je peux dire que sachez que vous êtes déjà invité. On va approcher les organisateurs pour vous inscrire parce que nous avons ces fléaux chez nous. Vous imaginez, nous sommes un pays agricole.
Justement.
Mais vous cherchez le métayage, les ouvriers agricoles au Togo. Même chez moi, à Bassar, vous ne trouvez pas.
Et le film parle de ça. Hein.
Voilà. Mais vous allez voir les jeunes. Il quitte Bassa, il passe par Tchamba, traverse le Bénin pour aller au Nigeria aller cultiver. Et ils reviennent avec quoi? Avec des radiocassettes, avec des motos. Et voilà. Alors que parfois d'autres ne reviennent pas parce qu'ils sont morts là-bas. Et alors que localement, on peut s'organiser, on peut les organiser, n'est-ce pas, à ce qu'ils gagnent. C'est-à-dire leur vie sur le plan national et local.
Je suis d'accord
avec
vous.
C'est partagé partout, que ce soit dans la région des plateaux, partout. Il n'y a plus de métiers agricoles. Alors que nous parlons
de relance, n'est-ce pas, de la production par l'agriculture.
Justement, donc, c'est une question, voilà, merci. Vous avez déjà l'invitation. Oui. Et je pense que Francisco fait partie même d'ailleurs des organisateurs de ce festival. Alors, merci beaucoup Roger d'être passé dans cette émission. Merci, oui. Et bon vent par rapport à ce que vous faites. Hein, et puisque vous êtes également un acteur très très important, un acteur culturel très important de cette société togolaise. Merci beaucoup d'être passé. C'est moi. Nous sommes de retour dans cette émission, nous revenons en studio après cet élément culturel alors que nous venons de passer, bien sûr. Nous sommes rejoints par Germain Pouli. Germain, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs de Canal FM.
D'accord. Alors, j'aimerais qu'on démarre cette émission avec cette question alors d'inondation, d'inondation que nous avons ces derniers temps. Bien sûr que quand on prend aujourd'hui la pluie, ça ne fait pas alors du bien aux Togolais. Et il y a des bassins de rétention quand même qui sont débordés et les quartiers sont inondés. Et, Francisco, on dirait tout simplement que ça ne fait vraiment pas alors du bien aux Togolais.
Oui, pas du tout. La pluie, on dit après la pluie, c'est le beau temps. Mais aujourd'hui, après la pluie, c'est le sale temps. Et tout d'abord, permettez-moi de déplorer une image qui circule sur les réseaux sociaux où il y a une dame qui est assise dans un canapé et à côté également, il y a d'autres meubles.
Et son enfant nageait.
Son enfant nageait.
Justement, j'ai vu la vidéo.
Et déjà, même quand vous voyez la couleur de l'eau, vous sentez que c'est vraiment de n'importe quoi, n'importe quel déchet, et même jusqu'aux excréments. Hein, quand vous regardez cette eau n'est pas propre. Et une dame, bien sûr que nous sommes dans un drame, mais ne doit pas, ça veut dire que aussi laisser aller, parce que après tout, c'est la maladie. On a connu le temps de la bilharziose et autres par le passé, surtout nous qui avons nagé dans les rivières, parce que c'était, on faisait quand même une bonne nage. Mais aujourd'hui, on doit protéger les enfants et nous-mêmes, on ne peut rentrer dans ces eaux que lorsque on sent que vraiment c'est une nécessité. Parce qu'il peut y avoir également des reptiles. Parce qu'on voit déjà des gens qui ramassent des poissons, choses dans l'eau. Donc, vraiment, il faut que les gens prennent leur mal en patience. Peut-être que sous peu, avec la 5e République, on va résoudre ces problèmes. Maintenant, pour le problème d'inondation, aujourd'hui, il n'y a plus un quartier qui soit épargné. Par exemple, hier, je quittais le lycée. Hein, le lycée, après 20 heures. Et pour la maison, j'ai déjà tracé ma route. J'ai dit non, je ne passe pas devant Edaoba parce que là, c'est d'office, il y aura de l'eau. Et je contourne jusqu'à la déviation pour venir au garage central. Je suis déjà à des intersections. Vous sentez qu'il y a la pluie déjà massivement sur la route jusqu'à ce que vous arrivez au niveau de. En face du garage central, je n'ai jamais vu. C'est-à-dire que déjà des maisons qui sont en face du garage central sont en train d'être menacés. Maintenant, quand vous continuez jusqu'au rond-point Pascal Boudjona, et même il y a risque, si cette pluie continue, que le bassin de rétention de Agbalépédo soit débordé. Parce que j'ai déjà vu hier des prémices que l'eau stagne beaucoup sur et la route, donc Pascal Boudjona jusqu'à arriver chose, je me demande comment est sous le pont, c'est-à-dire sous l'échangeur de Docteur Lafia, comment ça devait être là-bas et autres. Donc aujourd'hui, le problème est grave et on nous dit que cette année, il a plu, l'année prochaine, il va pleuvoir plus. Donc, il va falloir qu'on se lève tôt, que les autorités se lèvent tôt pour établir un véritable plan. J'ai dit, nous avons des valeurs au Togo. Les gens parlent de l'ordre des architectes, des urbanistes. Ils sont bons. Il suffit de dépolitiser l'appareil pour que les gens puissent mettre leurs compétences au service du pays. On ne va pas continuer à aller chercher des gens et ailleurs pour les payer, pour payer l'expertise qui coûte cher. Le Togo a formé des gens localement. Il y a encore des Togolais, même dans la diaspora, qui sont prêts à venir, à appuyer les efforts. Mais il va falloir ouvrir les vannes, c'est-à-dire que permettre aux gens vraiment de s'exprimer pour que le Togo puisse au moins profiter de ce qu'il a d'important, comme les ressources humaines.
D'accord. Alors, Monsieur Anani, c'est vrai que le gouvernement a fait sortir un communiqué hier pour appeler la population à la vigilance, puisque c'est un événement qui arrive, un phénomène, bien sûr. C'est ce phénomène alors d'inondation. Mais au-delà même d'ailleurs de cet appel à la vigilance, il faut quand même des mesures pour que on arrive à en découdre avec cette situation, ou bien.
Pascal, je dirais que ce qui se passe actuellement est grave. Et dans les jours, les semaines à venir, si nous avons encore cette fréquence de pluie, la situation risque de s'aggraver au point de pousser les gens à faire ce qu'ils ne doivent pas faire. Vous voyez, dans des quartiers tout entiers, il y a de l'eau. Des maisons sont submergées, des gens n'arrivent pas à faire quoi que ce soit, ils sont dans l'eau. Mais dans cette situation, le gouvernement a une responsabilité. Celle de sortir, celle d'accepter, bon voilà, ce qui se passe est grave, qu'est-ce qu'on peut faire? L'aîné vient de le dire, nous avons des gens compétents dans ce pays qui peuvent sortir avec des solutions durables pour qu'on puisse véritablement sortir de cette impasse. Il ne faudrait pas que chaque année on revienne à cette situation.
Pratiquement chaque année on a vraiment cette communiqué du gouvernement.
Il faut mettre un terme à ça, il faut que ça cesse. Il faut que le gouvernement puisse faire appel à ces Togolais-là qui ont la compétence de pouvoir trouver des solutions durables. Mais aussi, d'un côté, il y a l'indiscipline de notre part.
L'incivisme,
l'indiscipline qu'il faut adresser.
Vous voulez parler de la population?
Oui, de la population. Vous avez devant votre maison un fleuve, si je peux le dire ainsi. Et vous vous permettez de faire sortir de l'eau sale. De l'eau, par exemple, dans laquelle vous avez lavé du poisson et ses consorts, des ordures dedans, vous revenez reverser la même chose dans l'eau qui est stagnée devant votre portail. C'est très mauvais. Et l'eau que nous avons devant nos maisons, l'eau qu'il y a dans les quartiers qui est stagnée, commence par avoir une certaine odeur. Ça commence par devenir nuisible pour nous. Alors, il faudrait que nous puissions nous organiser. Si c'est au niveau du CDQ, je ne sais pas quoi. Je sais qu'il doit avoir quelque chose qu'on peut faire pour désinfecter les eaux que nous avons.
Là aussi, est-ce que on ne va pas appeler à la conscience plutôt alors du citoyen?
Oui, je viens de le faire, mais au-delà de ça, nous avons déjà la situation de l'eau sale, de l'eau qui est impropre à la peau. Mais il faut aussi trouver des solutions pendant qu'on est en train d'appeler les gens à la discipline.
D'accord, merci beaucoup. Alors Firmin, c'est comme si déjà chaque année nous observons ce phénomène, et cette année encore, puisqu'il y a le service de la météorologie quand même qui nous dit qu'il y a encore de la pluie dans les nuages, et nous avons même constaté déjà la pluie d'hier, déjà à deux heures avant, cette pluie d'hier. Il y a le service de la météorologie quand même qui a alerté tout le monde, toute la population, que mais il y a également une pluie qui arrive. Finalement, la pluie a créé le dégât que nous connaissons tous ensemble. Ça veut dire que nous ne sommes pas... pour sortir alors de l'auberge, ce n'est pas aujourd'hui.
Vous savez, montrez-moi un seul pays par le monde qui n'a jamais connu d'inondation ou qui ne connaît pas d'inondation annuellement.
Oui, mais même si des pays connaissent alors d'inondation, on se souvient de l'Arabie Saoudite tout récemment, il y a des dispositions qui ont été prises.
Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'en réalité, le phénomène naturel, donc Dame Nature est plus puissante que quiconque, est plus puissante que tout État. Donc, ce qui manque au Togo, c'est on n'a pas vu venir ou on n'a pas pris des dispositions pour amoindrir les dégâts, c'est tout. C'est ça le problème, c'est le manque d'infrastructures. Il y a des infrastructures qui ont été faites, mais je pense qu'on a raté à ce niveau-là. Et aussi, on a parlé de la discipline de notre part, bien sûr. Mais c'est le manque d'infrastructures et les expertises n'ont pas été vraiment au rendez-vous. C'est ça le problème fondamental. Aujourd'hui, moi, je sais que le gouvernement est déjà conscient de la gravité du problème. Le gouvernement, bien sûr, on dit à l'avenir. À l'avenir, le monde, demain ne sera pas tellement meilleur, hein. C'est-à-dire le monde va de mal en pis. C'est comme ça, en fait. Donc, c'est comme vous lisez là-bas, on dit qu'il y aura des temps difficiles. Elle avait dit, mais tout que le gouvernement sache qu'à l'avenir, ce sera pire. Donc, il faut maintenant prendre des dispositions. Il faut prendre des dispositions pour que cette situation-là ne nous emporte pas comme cela, comme cela est en train d'être vécu aujourd'hui ou cette dernière semaine. Que le gouvernement prenne des dispositions. Le gouvernement est déjà conscient, mais que des mesures soient vraiment prises pour qu'à l'avenir, cette situation ne soit plus répétitive. Parce que chaque année, qu'on le sache, qu'on le veuille ou non, il y aura de fortes pluies, il y aura des pluies diluviennes, il y aura par endroit des inondations. En Allemagne aujourd'hui, vous avez vu aussi les vidéos qui ont circulé, il y aura ça, Arabie Saoudite, il y aura toujours ça. Mais c'est qu'on n'arrive pas à avoir de l'argent. Peut-être, moi je me dis, on peut avoir des experts, mais c'est une autre chose aussi, est d'avoir de l'argent. De la liquidité, beaucoup d'argent pour pouvoir investir dans de gros projets qui puissent contenir ces inondations-là. Est-ce qu'on a aujourd'hui de l'argent suffisamment pour construire de grandes infrastructures, pour avoir de grands experts? C'est ça, au fait. On peut avoir des experts. Mais si on n'a que de petites sommes, on n'aura que de petits travaux, et 5 ans après, on va vivre la même chose. Ce qu'il faut aujourd'hui, moi, depuis un moment, je parle d'argent. Au fait, c'est-à-dire, on peut avoir des espoirs, on dit on a des ressources, bien sûr.
Ah, vous pensez que nous n'avons pas assez d'argent?
Oui, moi je pense que oui, pour construire certaines choses, on fait appel à certains, peut-être certaines structures internationales qui nous aident. Mais est-ce qu'on arrive à mobiliser assez? Et quand on mobilise, est-ce qu'il y a un suivi véritable? Moi, ce que je veux demander à tous, aux autorités, bien sûr, on voit l'ANPC, on voit le gouvernement qui est au chevet des sinistrés. Mais ce que moi je voudrais, c'est qu'on arrive à mobiliser assez de fonds. Et qu'on soit sérieux par rapport à ce qui va être fait. On dit on a le système d'urbanisation, ou le plan d'urbanisation de Lomé ou de tout le pays, mais qu'on revoie tout ce plan-là. Qu'est-ce qui a marché? Est-ce que ce plan-là s'adapte vraiment aux réalités modernes? C'est ça mon souci.
D'accord. Alors Germain, est-ce que vous n'avez pas l'impression que déjà pour ces inondations, on trouve toujours des solutions ponctuelles pour la situation, et l'année suivante, cette solution est totalement dépassée et qu'on retrouve alors d'autres problèmes.
Bon, est-ce que ce sont des solutions ponctuelles ou des solutions dépassées? Ce sont des solutions qui ont fait leur preuve dans certains pays, mais aujourd'hui, c'est que la nature se rebelle totalement. Vous savez, quand vous prenez toute la côte, de Cotonou, Lomé, Accra, Abidjan, tout ça, c'est la même situation. Et même pas plus tard que la semaine dernière en Allemagne, les inondations ont fait des morts. Donc, vous voyez, nous sommes même dans des pays les moyens qui n'arrivent pas à maîtriser. C'est un peu comme les typhons aux États-Unis. La météo annonce que ça va arriver, mais ça vient des villes. Et reconstruit. C'est tous les ans. C'est pas l'État, il y a telle période, on demande aux habitants de quitter. Mais il n'y a pas de parade. Vous savez, des incendies parfois dans des pays comme le Canada où c'est pendant des mois. Ils ont les moyens, les ponts, ils viennent des États-Unis de partout, mais ils n'arrivent pas. Donc il y a un phénomène naturel que les hommes ne maîtrisent pas. Bon, chez nous, ça s'aggrave un peu parce que déjà certaines populations vivent dans des zones qu'on dit inondables. Même dans des zones qui n'étaient pas inondables avant, aujourd'hui il y a des inondations. Donc ça veut dire que ce qui se passe dépasse même les capacités intellectuelles de l'homme. Et certains disent, mais on a abusé de la nature aujourd'hui, elle se venge sur nous, et donc elle nous le fait. Et maintenant, est-ce qu'on est vraiment puissant face à ces phénomènes? Je ne crois pas. Il y a toujours eu des déluges, il y a toujours eu des situations de par l'histoire. Et ça viendra tous les ans. Et maintenant, peut-être dans l'immédiat, c'est de voir les quartiers où il y a trop de problèmes pour peut-être délocaliser les quartiers, tout simplement, les déplacer, parce que vous allez voir des familles tous les ans, à la même période, elles vivent le même calvaire. Vous allez dans certaines chambres, vous allez voir sur les murs les traces de l'eau. Et parfois, ça avoisine les 1,50 m. Donc vous vous demandez, mais l'eau est arrivée à ce niveau.
Et quand la saison sèche arrive, ces personnes la vivent dans ces maisons, parce que construire une maison aujourd'hui, c'est pas facile. On ne peut pas quitter et aller rester ailleurs. Donc certains, ils sont bien obligés. Maintenant, est-ce que l'État ne peut pas, au moment où on parle de la construction des logements sociaux et tout cela, peut-être prévoir des endroits où on peut construire et reloger ceux qui souhaitent quitter, et que l'État peut-être puisse après retourner sur ces lieux-là et voir quel type de travaux il faut effectuer. Mais moi, je ne pense pas que c'est une question de technique. Je ne pense pas que c'est une question de moyens. Les moyens peuvent aider à amoindrir un peu les dégâts. Mais les dégâts aujourd'hui sont inévitables. Vous verrez, les spécialistes de l'environnement, ils vous diront que ça va aller en s'aggravant. Ils ne sont pas optimistes, pas du tout, sur les choses. Même, vous prenez aussi l'exemple de la chaleur. L'année dernière, cette année, ont été des années particulièrement chaudes. Il y a des pays qui n'ont pas vécu ces chaleurs-là depuis plus de 50 ans. Donc, c'est tout un dérèglement climatique dans plusieurs secteurs qui se produit. Et je ne sais pas si l'homme a la capacité. Certains religieux vous diront que c'est le début de la fin du monde, mais moi je n'y crois pas trop. Je pense tout simplement, comme les uns et les autres l'ont dit, nous sommes aussi responsables de cela. Mmh. Aujourd'hui on parle de reboiser, il y a la journée de l'arbre, il y a un certain nombre d'arbres qu'on veut pouvoir atteindre. Et le 1er
juin, il y a d'ici 2030.
Voilà, le 1er juin, je ne sais pas qui d'entre nous ici a planté un arbre. Je ne suis même pas celui qui a un seul parmi nous qui a planté un arbre. On est allé faire des photos à ceux qui plantent des arbres pour les publier dans nos médias. Et donc, ce sont des choses qu'il faut faire pour lutter contre tout ce qui se fait. Et si on ne le fait pas, je pense que peut-être nous, on va s'échapper, mais nos enfants et nos petits-enfants vont vivre des situations beaucoup plus dramatiques que ce qui est en train de se passer.
Mmh. Nos enfants vont vivre alors des situations beaucoup plus dramatiques que ce qui se passe actuellement. Et donc, il est très important quand même, prenons les précautions nécessaires pour y arriver. C'est très important. Nous allons quitter le sujet, parler de notre sujet.
Mais Germain a parlé en notre nom. Moi, j'ai planté des arbres. Donc, si vous n'en avez pas planté...
J'en ai planté aussi.
J'en fais 2 sur 5.
Et moi, spécialement...
La majorité n'a pas planté.
Je n'attends pas le 1er juin.
Non, c'est pour ça que je dis si.
C'est pour ça que je dis le si.
Tout à fait, pour bénéficier.
Beaucoup de pluie, voilà.
D'accord. Alors, je reste toujours avec vous un peu pour parler de cette rencontre que notre capitale Lomé abrite depuis le 4 dernier. Je veux bien parler alors de cette rencontre sur l'intelligence artificielle. Concrètement, qu'est-ce qui se passe avec cette rencontre avec l'intelligence artificielle, et qu'est-ce que le Togo bénéficie?
Ben, le Togo, comme tout le monde, doit pouvoir tirer un profit de cette révolution qui est l'intelligence artificielle. C'est un peu comme l'homme peut être remplacé dans certaines tâches par la machine, qui est dotée pratiquement de la même intelligence que l'homme, mais qui est beaucoup plus efficace, plus productive. Ce que l'homme peut faire, je ne sais pas, je donne un exemple, peut-être je peux déplacer ce téléphone en une minute. La machine peut déplacer 10 000 téléphones en une minute aussi. Donc, vous voyez, donc sur certaines tâches répétitives où on n'a pas besoin de certaines... Bon, donc, la machine peut le faire. Et donc, c'est dans tous les domaines, dans le domaine agricole, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'économie, dans les transports, dans tous les secteurs, y compris même dans le journalisme, où nous avons pu bénéficier d'une formation depuis quelques mois, toujours dans le sillage de cette semaine de l'intelligence artificielle. Nous avons pu former 100 journalistes pour savoir ce que c'est. Donc aujourd'hui, plusieurs acteurs sont venus de plusieurs pays, des quatre coins du monde, depuis donc le mardi, et ils réfléchissent sur les opportunités de l'IA et sur les enjeux sociétaux. Les enjeux, c'est notamment quel usage on peut faire de l'IA, parce qu'on voit que l'IA, c'est un peu aussi ce couteau à double tranchant. Au même moment qu'on peut faire du colico ou des brochettes avec, on peut poignarder aussi quelqu'un avec. Et donc, on a vu certains utiliser, mal utiliser l'IA. Et dans d'autres pays aussi, on craint que l'IA n'augmente le taux de chômage.
Tout à fait. C'est là le risque, hein, jamais.
Les gens, voilà. Donc, mais en réalité, je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter parce que sur des tâches répétitives qu'on fait parfois sans trop réfléchir, on peut utiliser les machines. Même sur des tâches où, par exemple, à l'hôpital, par rapport à certaines analyses, parfois l'homme peut commettre certaines erreurs dans les interprétations, là où la machine peut, sur plusieurs analyses, pouvoir donner avec exactitude donc des résultats. Même dans notre domaine, sur certains articles, comme des reprises, des articles déjà publiés qu'on veut reprendre, la machine peut le faire et le journaliste ne perd pas son boulot. Au contraire, il pourra aller sur un lieu de reportage, il pourra aller faire une interview, ce que la machine ne peut pas forcément faire. Peut faire, mais pas mieux que l'homme. Donc, l'IA ne remplace pas totalement l'homme. Il faut l'homme toujours à côté, mais l'IA vient aider l'homme dans certaines tâches pour qu'il soit beaucoup plus productif.
D'accord, merci beaucoup, Jamais. Alors, Francisco, est-ce que ce n'est pas ça le risque vraiment de l'IA aujourd'hui? Parce que déjà, quand nous faisons la promotion alors de l'IA, c'est comme si nous devons avoir peur aussi du fait que nous allons perdre nos emplois demain.
Oh, vous savez, dans toute chose, c'est l'éducation d'abord. Et perdre son emploi, c'est-à-dire que les risques, ils sont perpétuels et permanents, parce que avec les changements dans le numérique, et on doit s'y attendre, ok. Mais maintenant, comme Germain l'a dit, il y a toujours l'homme qui doit être à côté. Vous avez une calculatrice, si vous voulez faire 2 × 2,
il faut que l'homme fasse 4.
Si l'homme a pu 2 × 1, il n'a pas pu 2 × 2, c'est-à-dire que c'est l'intelligence que nous donnons à cette intelligence artificielle qui fonctionne. Donc, il y a beaucoup de choses, les risques sont là, il l'a dit, qu'on peut en prendre pour faire de mauvaises choses. Moi, je vous dis, moi, par exemple, même quand je prends une photo, moi-même, pour publier dans un journal, même je n'ajoute pas la luminosité et autres. D'accord ?
Parce que l'appareil fait tout ?
Parce que je fais tout. Pour que ce que je veux capturer comme image, que ça reflète ce que je vois. Donc, tous les conditions, moi, je n'aime pas les traitements et des choses. Donc, il y a beaucoup de choses. Bon, on va être certains conservateurs, mais de toutes les façons, et ça nous rattrape. Ça nous rattrape, mais il faut qu'on soit vigilant pour ne pas trop mettre ça en avant, parce que vous allez voir qu'aujourd'hui, même dans les pays développés, même pour les examens, on est obligé de placer les caméras partout et éviter que les gens touchent, par exemple, à certains outils lorsqu'il s'agit de certaines épreuves. Mais si on se met trop, on met toujours trop les enfants dans l'intelligence artificielle, ils seront très, très, comment l'appelle-t-on, et dépendants, d'accord, et ce qui risque d'avoir un coup sur la personne qui doit, n'est-ce pas, donner les ordres, n'est-ce pas, à l'appareil. Donc, il va donner de mauvais ordres. Donc, c'est ce que nous devons éviter.
D'accord.
Et voilà.
Ok. Et monsieur Anani, est-ce que aujourd'hui, l'autre risque de l'IA ou de l'intelligence artificielle, ce n'est pas que déjà ça diminue un tout petit peu notre état de réflexion, c'est-à-dire en tant qu'homme, là où nous devons réfléchir, on laisse plutôt la machine faire tout à notre place?
Bon, je pense que c'est une décision personnelle au niveau de chaque personne. Parce que lorsqu'aujourd'hui je décide de ne plus lire, je laisse mon cerveau dormir. Et ça peut me créer des problèmes. Alors si pour des tâches pour lesquelles je dois m'exercer, je dois réfléchir, je décide de ne pas réfléchir et je laisse la machine faire le travail à ma place, je me tue. Parce que dès que tu laisses ton cerveau dormir, tu commences pas à mourir. Alors, moi je pense qu'il faut être un peu méfiant vis-à-vis de tout ce qu'on a aujourd'hui comme technologie. Tout ce que nous faisons, ou bien tout ce que nous avions à faire de par le passé, ce que nous avons à faire aujourd'hui, ou bien à l'avenir, il faudrait qu'on soit un peu, comment le terme m'échappe un peu, qu'on soit modéré dans l'utilisation.
Et très prudent aussi.
Voilà, très prudent, histoire de ne pas nous-mêmes endormir nos cerveaux et après se plaindre.
D'accord. Firmin, les machines sont là aujourd'hui, elles nous envahissent en quelque sorte, et c'est une bonne chose quand même.
Oui, c'est une très bonne chose. Moi, je suis surpris de nos réactions dans ce studio, excepté la réflexion de Germain Pouli. C'est comme, quand on parle de méfiance, c'est comme vous voulez constituer un obstacle à l'évolution du monde. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est tout. Donc, moi, je pense que c'est notre réflexion. Moi-même, je suis dans la manière dont nous réagissons devant l'intelligence artificielle. C'est une manière africaine. On a peur, on se méfie, ne faisons pas ci, ne faisons pas ça. Ça
prend ailleurs, ça se développe.
Ça se développe. Le monde évolue sans nous. On ne s'en aperçoit pas. Le monde évolue sans nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les blancs évoluent. Si nous voulons, si au niveau de nos États, nous ne voulons pas adopter l'intelligence artificielle, les autres vont l'adopter, ils vont évoluer, ils vont réaliser de grandes choses. Et nous serons où? Dans 5 ans, l'intelligence artificielle sera beaucoup plus développée dans beaucoup de pays. Et nous, on sera où? Mais je pense que quand ça vient comme ça, ce sont les armées, les services de renseignement qui s'en approprient tout d'abord, avant qu'on le laisse divulguer dans la masse. Moi, ce que je voudrais aujourd'hui, tout le monde, je ne dirais pas surpris, mais on est ébloui quand on voit certaines images ou certaines réalisations de
l'intelligence. On est totalement impressionné.
On est impressionné. Il faut qu'on quitte un peu cette villageoiserie. Moi, je suis dedans, hein. Je suis dedans, c'est-à-dire on est trop villageois quand on voit des choses comme ça.
Non, est-ce que c'est une question d'être villageois?
Parce on est impressionné, parce qu'on n'a jamais vu ça.
Parce oui, justement, on ne l'a jamais vu.
On n'a jamais vu, on est impressionné.
On a le droit de s'étonner.
Oui, on a le droit de s'étonner et puis on arrive plus à réfléchir à ce qu'on peut faire. Moi, ce que moi je dis, c'est de grands défis. Quand nos États voient ça, quand nos chefs d'État, nos gouvernements voient ça, ils doivent se dire, on a du boulot. Du boulot. Par exemple, ceux qui inventent des choses comme ça, ceux qui sont ceux qui ont cette intelligence d'inventer des choses comme ça, les gouvernants africains doivent se dire, mais non, venez, qu'est-ce qu'on peut faire nous pour pouvoir être à la page? Parce que le monde est en train d'évoluer sans nous. C'est ça, ça doit être notre défi. Le monde, quand on voit des choses comme ça, on doit se dire, mais on a honte. On doit se dire, mais nous avons échoué. Mais nos experts, nos grands intellectuels, avec de grands livres, avec de grands discours à l'université, les grands universitaires, nos grands docteurs, nos grands professeurs, quand ils voient ces genres de choses, ils doivent se dire, mais on a échoué. Pendant 60 ans, on a fait quoi? Mais il y a d'autres qui sont en train d'inventer des choses comme ça. On doit se dire, mais non, on doit se les approprier. On se les approprie. Et après, on dit, mais non, il faut que nous aussi, nous existions. Le monde, si nous n'allons pas entrer dans l'histoire. Quand les gens disent, nous ne sommes pas suffisamment entrés dans l'histoire, c'est ça, en fait. L'histoire du monde est en train de s'écrire sans l'Afrique. Alors que nous avons tout aujourd'hui. Nous avons une démographie impressionnante. Plus d'un milliard d'habitants. L'Europe, c'est 400 millions d'habitants. Mais regardez, l'Occident, les États-Unis, c'est 350 millions d'habitants. L'Europe, c'est 400 millions. Vous imaginez ça, c'est même pas un milliard. Mais ici, on a une démographie extraordinaire, importante et jeune, mais qui ne veut pas être intelligente.
D'accord. Alors, Germain, est-ce qu'on a échoué vraiment? Ou bien, il y a le monde qui suit une évolution aujourd'hui et que nous devons juste rentrer alors dans cette évolution?
Non, je pense pas qu'on a pas échoué, parce que les initiateurs de cette semaine de l'intelligence artificielle, il y en a de plusieurs nationalités. Ils sont au sein d'un conseil international de l'intelligence artificielle dont le président est un Togolais, d'ailleurs, le docteur Malik Maurice Mouzou, qui est le premier docteur en intelligence artificielle au Togo. Donc, ça vient, mais j'invite ceux qui peuvent y aller, parce que jusqu'à demain, il y a des start-up togolaises, des jeunes qui sont déjà dedans.
Et qui inventent des choses.
Oui, vous avez un jeune qui invente un concept, c'est G-Avicole par exemple, et ça aide dans l'agriculture et l'élevage. Ça vous permet de produire beaucoup plus, de contrôler la production et même après dans la commercialisation. Et ce jeune-là, il distribue déjà sa technologie ici au Togo, il distribue un peu au Rwanda, dans 3-4 pays. Il est en train de conquérir. La Côte d'Ivoire également, il est en train d'y aller. Donc il y a une quinzaine de start-up qui ont exposé à l'hôtel de février aujourd'hui togolaise, en plus de tous les étrangers qui sont venus, de tous les grands acteurs mondiaux donc qui sont là. Et je pense qu'il y a de l'espoir. J'ai rencontré des jeunes patrons d'entreprises qui n'avaient même pas 30 ans, qui sont dans le numérique, avec des choses inimaginables. Donc, on n'est pas en retard. C'est vrai que c'est totalement nouveau pour nous. Il faut dire la vérité, c'est à la faveur de
cette semaine. Et on a le droit de s'étonner.
Voilà. Et donc, ben, il y a quelques pionniers qui essaient de travailler, qui sont à cheval entre le Togo et d'autres pays, qui ont compris le besoin donc d'utiliser cette révolution technologique là. Donc à mon avis, je crois que il y a de l'espoir, et quand vous allez à cette semaine, il y a plusieurs étudiants, plusieurs jeunes qui s'intéressent et qui font des choses extraordinaires. Et si on laisse sur, on reste sur cette lancée là, je crois que il y a de l'espoir.
Il y a de l'espoir. Oui, Francisco.
Non, c'est pour assurer firmement que nous ne sommes pas aussi en retard. C'est le problème, c'est un problème aussi de financement. Germain, si jamais, peut-être qu'il va le confirmer, pour tous ces gens-là, ces jeunes qui sont en train de se débrouiller, d'inventer, ils vont trouver le financement où? Même la recherche à l'université n'est pas financée. Alors que ces start-up, normalement, qui devaient être accompagnés, peut-être par un programme de l'État avec une caisse quelque part qui permet de financer ces choses, il n'y a pas.
Non, mais il y en a. Il y a l'agence Togo Digital, quand même, qui est créée par l'État, qui fait un boulot. Il y a des structures comme la GIZ, et j'ai rencontré au moins 5 startups là, qui viennent d'exposer dans un... Lors d'un salon au Maroc qui vient de rentrer. Donc, il y en a. Mais c'est peut-être aussi que nous, aussi journalistes, on ne communique pas assez sur ces choses-là. Mais le problème de la recherche, c'est dans tous les pays. Même en France, vous allez aujourd'hui, les gens sont en train de fuir pour aller aux États-Unis, où ils disent que c'est mieux financé, la recherche est mieux financée là-bas. Donc, mais ici, quand même, le Togo a mis le numérique comme une priorité dans la feuille de route. Donc maintenant, est-ce que le rythme est suffisant? Je pense qu'on peut encore accélérer.
Donc il faut y donner, il faut donner à la chose un coup d'accélérateur. Il a bien parlé de GIZ. GIZ, c'est des gens qui nous appuient de l'extérieur. Voilà. Quelle est la proportion? Qu'est-ce que nous-mêmes nous mettons comme moyen? Et Firmin, je veux lui faire cette prescription. Il faut éviter de mettre, par exemple, les calculatrices à la disposition de vos enfants dès petits. Le calcul mental, ils en ont besoin pour faire bouger leur ménage. C'est pas parce qu'il y a l'intelligence artificielle que vous allez laisser les robots lire les tests pour eux. Ils doivent lire pour apprendre. Donc, voilà des choses que nous disons qu'il faut être avant-gardiste pour ne pas trop exposer les enfants.
Parce que je suis d'accord
avec vous. Pour ne pas trop exposer les enfants très tôt, n'est-ce pas, à certains outils qui vont, et disons, abaisser, disons, leur intelligence et leur savoir.
Voilà, moi je voudrais juste ajouter quelque chose.
Oui, allez-y, rapidement.
Moi, je ne suis toujours pas d'accord avec Germain Pouli et Francisco Napoko pour quand il parle de financement. Mais écoutez, on sait que ces genres de choses, c'est une question de financement. Vous avez parlé des Togolais. Mais là, qu'est-ce que le gouvernement togolais, par exemple, va faire de ces Togolais? On va les laisser partir.
C'est ce que je vous explique.
Oui, c'est-à-dire...
Par exemple, ils viennent de rentrer du Maroc.
Oui,
c'est le gouvernement et la GIZ qui les envoient.
Oui, par exemple, regardez.
Maintenant, ils exposent à la CIA actuellement.
Voilà. Oui, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose.
Oui,
la manière, ce que moi je souhaiterais, quand on parle de financement, moi je voudrais qu'on quitte un peu le niveau. Parce que ça fait des années qu'on ne donne pas de financement, on finance, mais au finish, les résultats ne sont pas véritablement palpables. Parce que quand on parle de développement, ce n'est pas ces petits trucs-là en réalité. Parce que les gens mettent les moyens, vous comprenez? Les gens mettent les moyens. Ces jeunes-là, par exemple, il faut trouver de gros financements pour dire, mais les gars, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir impressionner le monde? Pour que le monde puisse se tourner vers nous. C'est ça, en fait. Les gens parlent du Rwanda, c'est parce que le Rwanda, on pille un peu la RDC, on va chercher le financement ailleurs, on a beaucoup d'argent et on finance cette technologie au niveau du Rwanda. Quand vous rentrez dans ce pays, tout le monde est impressionné. Alors moi, je voudrais...
La France a fait quelque chose d'extraordinaire.
Oui, vous savez, la France a dit, arrivé à un moment donné, les Français ont dit, on n'a pas d'argent pour financer la recherche et l'innovation. C'est pour cela que l'Union Européenne, à l'époque, leur avait demandé, vous savez, il faut privatiser la plupart de vos entreprises. Vous les privatisez et ce que vous allez en récolter, vous les jetez dans la recherche et dans l'innovation. Ça veut dire que c'est beaucoup de milliards d'euros.
D'accord. Donc moi, j'ai rencontré un jeune là, à la CIA, qui me dit que les gens sont surpris quand il leur dit qu'il a financé son entreprise sur fonds propres. Je dis, mais pourquoi il le dit? Il dit, oui, les gens ne croient pas. Ça veut dire quoi? On attend toujours que quelqu'un nous finance. Mais quand vous créez une start-up, je disais, celui qui a fait J.A. Vicroll, mais il va vendre sa technologie. Il va la rentabiliser. Maintenant, si vous êtes sur un bon tuyau, même si l'État ne finance pas, vous pouvez chercher le financement ailleurs. Parce que quoi qu'on dise, c'est une recherche, mais vous faites du business aussi. Aujourd'hui, les jeunes qui nous ont offert le Facebook et tout ça, peut-être ils ont été financés, peut-être ils ne l'ont pas été. Mais aujourd'hui, on les compte parmi les milliardaires et tout ça, c'est eux. Donc, le premier qui finance, déjà, c'est celui-là qui est à l'origine de l'idée. Mmh. Il met ses idées, il met ses petits moyens, et peut-être il met les moyens de la famille et des amis d'abord, après l'État, après des banques et tout ça. Donc, si on se dit, nos États vont financer, nous venons de parler des inondations, les États n'ont même pas l'argent pour régler ce problème d'inondation. Mais, on parle de financer la recherche. Donc, nous nous bloquons parce que nous attendons un partenaire qui, forcément, risque d'agir un peu en retard. Donc, nous-mêmes, on s'investit. Le jeune me dit, les gens sont surpris. Mais j'en ai rencontré plein comme ça. Ils démarrent petits. Et puis, mais quand vous attendez qu'on vous finance, vous attendrez longtemps. Mais si vous financez un peu tous ceux qui ont réussi aujourd'hui, mais beaucoup se sont endettés de façon inimaginable. On a l'impression que les gens réussissent facilement, c'est faux. Les gens étaient endettés, ils ont eu envie même de fuir ce pays parce que ça ne marchait pas au début, c'est difficile, il faut rembourser des pressions. Et non. Je pense qu'il faut qu'on évolue vers là. On a comme l'impression quand vous avez une bonne idée d'entreprise, le financement doit venir facilement et vous réussissez. Ça n'a jamais été le cas. C'est moi, ça, les gens que je connais ont galéré, ont passé des nuits sans dormir, ont failli tout abandonner par moment en disant que rien ne marche. Mais après, ils s'en sortent.
Oui, moi, par exemple, quand moi je parle de financement, je ne dis pas qu'il y a quelqu'un qui a de l'argent qui va vous donner. Ça peut constituer des prêts aussi. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait de la disponibilité quelque part. Par exemple, l'État, moi je n'attends pas ce que l'État se dit, vous dise, venez prendre de l'argent. L'État peut-être met en place des conditions qui puissent nous permettre d'aller chercher facilement de l'argent et après on rembourse.
D'accord, ok, merci.
Quitter le sujet. Monsieur Germain, c'est à notre attendement. Moi je veux un patron de grande entreprise, d'une grande entreprise, plutôt que c'est après 50 ans, que parce qu'il doit faire un cheminement, autofinancement, jusqu'à, et puis il a 50 ans, 60 ans, il est toujours dans un micro, une micro
entreprise.
Réussir à 70 ans, pourquoi ça, il n'est pas obligé de réussir à 50 ans.
Et ça, ça ne peut que se faire que dans le cadre, n'est-ce pas, d'une politique de l'État visant à faire des grandes entreprises. Donc, aux banques également d'accompagner. C'est une politique nationale.
D'accord, okay, vous voyez, merci
les expériences.
Aujourd'hui, vous prenez un gars comme Adebayo. On parle de lui partout. Qu'est-ce que l'État a fait pour le fabriquer? Pas grand-chose. C'est pour dire.
Adebayo, c'est un cas isolé.
Non, c'est un exemple. Mais s'il y a des hommes d'affaires aujourd'hui.
Il n'a pas créé une entreprise, il a joué le ballon.
Non, là, vous voyez. Même ceux qui ont créé des entreprises aujourd'hui, vous croyez que c'est l'État qui les a financés? Pas forcément.
Oui, c'est ce que j'ai dit.
Je pense. Non, en réalité, l'État doit financer, c'est vrai. Mais si on attend l'État, j'ai peur que personne ne va démarrer en réalité. Il faut commencer par soi-même.
D'accord. Merci beaucoup.
Heureusement qu'il nous dit que l'État ne peut pas.
Merci beaucoup. Nous avons encore quelques minutes, mais nous allons parler politique. Politique, nous savons l'actualité, le dernier développement même d'ailleurs de l'actualité politique. Alors chez nous, et Francisco, on l'a tous ensemble appris par rapport à l'Assemblée nationale. Il y a les partis ANC et FDR qui ont refusé, alors de siéger à l'Assemblée nationale. Comment vous avez appris l'information et comment vous l'avez accueillie?
Non, mais c'est par les médias. Et moi, depuis deux semaines, depuis l'annonce, je cherche autre chose. Et je me suis questionné, j'ai questionné les gens. Et heureusement que hier, le professeur François Ounaké a levé le voile en disant ce qui va se passer. C'est-à-dire que le refus de ces deux partis de siéger, n'est-ce pas, et à la fin, peut, reconvoquer le corps électoral dans les zones respectives. Moi, c'est ça qui m'intéressait plus que la décision. Maintenant, la lecture, est-ce que cela est en train d'être fait dans une intelligence où, par exemple, certains siègent et certains provoquent peut-être l'annulation de certaines circonscriptions pour lesquelles, s'il y a élection, il y a une stratégie peut-être derrière qui va être déployée. Moi, c'est ça que moi je vois, et non plus l'axe. Mais l'axe doit être stratégique. Est-ce que c'est stratégique ou bien est-ce que c'est le coup de tête, sur le coup de tête? Donc, c'est nous l'avenir qui nous fera mieux nous prononcer.
Ah, d'accord. Si ok. Monsieur Anani, c'est vrai que nous avons tous ensemble appris l'information, mais est-ce que ce n'est pas une forme de trahison de l'électeur ou des électeurs quand déjà des électeurs ont eu confiance en vous et que finalement vous dites, ben, nous n'allons pas siéger?
Écoutez, Pascal, avant même ces élections, il y a beaucoup de personnes qui se sont dit, avec ce contexte de nouvelle constitution, cette histoire d'élection ne devrait pas être la priorité. Moi, je me rappelle que j'ai eu à dire à quelqu'un, ben, si j'étais un membre de l'opposition togolaise, j'allais plutôt chercher les voies et moyens pour ne serait-ce que pousser les élections un peu avant pour régler cette histoire de constitution, faire un peu reculer le gouvernement.
Mais est-ce que ce n'est pas fait sciemment? C'est-à-dire le fait que le gouvernement a amené et la question d'élection et la question même d'ailleurs de la constitution en même temps pour en quelque sorte faire, je ne saurais le dire, une diversion.
Ben, le gouvernement est géré par un parti politique. C'est un parti politique qui gère l'État. Et ce parti politique a des stratégies politiques. Tout ce que le gouvernement a pu faire, quoi qu'on puisse dire par rapport à cela, ça répond à leur stratégie politique au sein de leur parti. Maintenant, les partis politiques de l'opposition, ceux-là qui refusent aujourd'hui de siéger, quelle était leur stratégie? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour empêcher que le plan du régime en place ne puisse être mis en exécution? Mais voilà, après, on laisse le gouvernement faire ce qu'il a à faire et après, on nous dit, ben, on ne veut pas siéger. Moi, je pense que c'est un manque de respect envers nous les Togolais. Parce que, écoutez, si vous êtes leader de l'opposition, vous n'êtes pas une personne à part entière. Vous représentez une partie de l'opposition qui croit en vous, qui croit en vos idéaux, qui croit...
Et vous incarnez une idéologie.
Voilà. Alors, il est important de pouvoir faire ces choses en ayant un peu de respect pour la mentalité, pour... l'espoir que les gens ont en vous.
En vous, voilà. D'accord, merci. Alors, Firmin, est-ce que vous êtes arrivé à comprendre cette décision alors de l'ANC et des FDR?
Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas.
Comment ça?
Je ne sais pas, moi, parce que je m'embrouille un peu, parce que quand vous analysez un peu, je ne sais pas. Francisco, on a beaucoup parlé d'une certaine intelligence. Est-ce que la décision a été prise dans une certaine intelligence? Je vous ai dit deux choses. La première chose, c'est que la portée de cette décision, elle est grave. Vous boycottez aujourd'hui le siéger à l'Assemblée nationale, ça veut dire les élections prochaines, les élections locales de 2025, elles vont être organisées sous la 5e République. Est-ce que vous allez participer à ces élections? C'est la première question. Si vous participez, ça veut dire que vous êtes incohérent. Si l'ANC et le FDR participent aux prochaines élections locales, ça veut dire qu'elles sont incohérentes, ces formations politiques. Maintenant, il y aura les législatives de 2030 qui vont être organisées sous la 5e République. Est-ce qu'elles vont participer ou pas, ces formations politiques? Alors, si elles participent, ça veut dire qu'elles sont incohérentes. Donc, la portée de la décision, elle est grave. Ça veut dire tout ce qui va être fait dans le pays, sur le plan institutionnel, constitutionnel, qui en réalité va régir leur vie. Ils vont s'en abstraire. Ça va être un peu compliqué. Il y a du flou à ce niveau. Moi, je doute qu'ils soient tellement incohérents, c'est-à-dire ceux qui représentent cette formation politique, qu'ils soient tellement cohérents dans le temps, dans les 6 prochaines années. Ça va être un peu plus compliqué. Alors, la meilleure des choses, c'est qu'ils reviennent à leur décision. Maintenant, la deuxième chose que je voudrais faire observer, c'est vous imaginez, la Constitution, elle a été votée par l'Assemblée nationale en plein processus électoral. Ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec la Constitution, vous boycottez en même temps les législatives. Voilà.
Oh, il y a des partis comme l'ANC qui ont dit même d'ailleurs que nous n'allons jamais, jamais boycotter même les élections.
Alors, vous ne boycottez pas, mais on vous donne les résultats et vous boycottez les résultats, c'est incohérent. En réalité, vous n'êtes pas d'accord avec la Constitution. Vous savez que là où nous sommes en train d'aller, cette Constitution va être promulguée. Alors, vous boycottez. Vous dites que vous n'êtes pas d'accord parce que vous êtes en train de rentrer de plein pied dans la nouvelle Constitution. Vous rentrez dans la nouvelle Constitution. Après, vous dites que vous ne reconnaissez pas les résultats. On est où là? Je pense que c'est un peu compliqué. Donc, pour conclure, c'est la troisième chose. Vous savez, j'ai l'impression qu'on ne lit pas le temps. Vous avez appris les résultats de l'ANC de l'Afrique du Sud. Elle a perdu. 40%. Parce que quoi? Cette ANC a perdu du terrain. La plupart de ceux qui votent aujourd'hui ne connaissent pas Mandela. La plupart de ceux qui votent aujourd'hui sont nés après 1994, sont nés en 2000, ont 26 ans, 25 ans, ont 20 ans, ont 18 ans, ont 19 ans, la plupart. Tout ça veut dire que l'idéologie que cachait cette ANC-là, qui était la lutte anti-apartheid, entre guillemets, ces jeunes ne se reconnaissent pas dans cette idéologie. C'est la même chose ici. Cette opposition classique-là, elle est en train de partir. La plupart de ceux-là qui votent aujourd'hui ne se retrouvent pas en cette opposition. Elles doivent déjà faire déjà le bilan, se dire, on a échoué. Le monde n'arrive plus, on n'arrive plus à s'adapter au monde. Les jeunes ne se reconnaissent pas en nous. Moi, je félicite, hein. Vous pouvez m'excuser. Je félicite le président de la République et tout son entourage qui ont eu les génieuses idées de dissoudre le RPT et de créer UNI en 2012. UNI aujourd'hui, c'est tout ce que les jeunes connaissent. Les jeunes ne connaissent plus. La plupart de ces jeunes aujourd'hui, vous ne pouvez pas leur parler de la conférence nationale et ils vont comprendre.
D'accord, ok. Alors, Germain, vous, à votre niveau, quand vous avez appris cette information de refus hein, de siéger hein, pour des partis politiques tels que l'ANC et les FDR, comment vous appréciez cela?
Bon, je ne sais pas sur quelle base cette décision a été prise. Est-ce qu'elle a été mûrement réfléchie? Je n'en sais rien. Mais je crois que ce qui s'est passé a surpris tout le monde, y compris UNIR même, parce que hier, j'ai rencontré un cadre d'un parti qui avait des députés avant l'Assemblée qui n'en a pas. Et il me dit qu'ils sont sous le choc de ce qui s'est passé. Donc j'imagine c'est un peu la même chose. C'est comment gérer un seul siège à l'Assemblée quand on a été député d'un parti qui a eu jusqu'à 27 députés à l'époque, est revenu un peu à moins de 20, et après donc vous voyez que c'est un peu difficile, et puis dans le contexte togolais aujourd'hui, l'opposition est totalement affaissée, en tout cas après l'élection de 2020. Et cette nouvelle élection n'a pas visiblement changé les choses. Et ça fait au moins 34 ans que ces deux députés-là qui devraient siéger ont refusé. Ils refusent. Donc ça fait 34 ans qu'ils font la politique. C'est peut-être l'heure de la retraite. Nous, dans un premier temps, on avait pensé qu'ils pourraient peut-être envoyer des suppléants pour les remplacer. Mais je crois que finalement, c'est difficile parce que cette assemblée a beaucoup de prérogatives, alors que l'opposition ne représente pas une véritable force au sein de cette assemblée et n'a pas envie de se voir liée à toute la décision qui serait prise. Mais je crois qu'il faut être courageuse, comme le fait Mme Brigitte Adiamagbo, même si elle est seule. Elle fera entendre sa voix, il y a même au-delà de l'hémicycle, on connaîtra sa position sur toutes les questions, et les autres auraient dû faire la même chose. Vous savez, il y a en France un certain Mélenchon qui, voulant être président, a refusé d'aller aux législatives.
La France insoumise.
Et aujourd'hui, il a perdu une grande tribune pour s'exprimer. Parce que l'Assemblée nationale, le fait d'être député, tu as une portion du pouvoir. Mm-hmm. Après, je ne sais pas comment ils vont se débrouiller et quand ils seront hors de l'Assemblée, s'ils comptent sur les médias ou sur les manifestations publiques pour s'exprimer. Et ça va être compliqué. Je pense que c'est une erreur supplémentaire. C'est comme s'ils sont tombés plusieurs fois au même endroit. On dit qu'on ne tombe pas deux fois au même endroit, mais là, ils sont en train de tomber plusieurs fois au même endroit, mais pour moi, c'est le signe d'une retraite anticipée. D'accord. Donc, que ces leaders-là sont en train de prendre.
D'accord.
Vivement que dans leur parti émergent des jeunes, parce que c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. Il n'y a que des jeunes, Firmin le disait pratiquement. Les gens aujourd'hui ont d'autres aspirations, ont d'autres besoins, ont d'autres leaders, se retrouvent dans d'autres leaders. Ce n'est plus l'ancienne vieille garde-là. Aujourd'hui, c'est des gens qui vieillissent, qui connaissent ces gens-là, ce n'est plus des jeunes, et donc vivement que sur leurs cendres d'autres naissent, qu'ils puissent porter le flambeau de l'opposition, parce que le Togo, dans tous les cas, a besoin d'une opposition.
Merci, merci beaucoup, Germain. Merci. Nous allons maintenant écouter aussi nos auditeurs. Ils s'impatientent à rentrer en ligne, à intervenir aussi dans ce débat. Nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs. Nous revenons juste après.
93.5. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant, vous comprenez que nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 22 21 33 114 91 36 315. Premier auditeur en ligne. Allô?
Oui.
Bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Votre nom c'est?
Oui, c'est Pelé.
Oui, Pelé.
Oui.
Allez-y.
Ok, je salue le plateau. Bon, moi, les boycotteurs de l'hémicycle, je ne vois pas le rapport parce que il faudrait faire attention, surtout le président Fonia Singbe, quand il est arrivé. Et son premier objectif, c'est de faire disparaître l'UFC et le CAR. Il a fait. Mais les deux, Jean-Pierre Fabre et Maître Apevon, l'ont récupéré d'une autre manière. Et s'ils ne savent pas faire, ils vont disparaître aussi. Maintenant, ce que je voudrais dire, la stratégie dont les Togolais parlent toujours de unir à une stratégie là, je ne sais pas si vous comparez la stratégie et le vol. Il y a le vol à part et la stratégie à part. Ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, je pense qu'il y a le vol. Il n'y a pas la stratégie. La stratégie, c'est que le système en place verrouille l'administration. Et c'est avec l'administration qu'il passe par aller aux élections. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. Mais à ce qui concerne tout ça là, tout ce que le Togolais doit savoir est que nous sommes dans la dictature. Parce que si nous prenons toujours, ou souvent je vais dire, les journalistes disent que l'Uni a une stratégie, il est sur le terrain est là. Mais il faudrait que le principe de la démocratie soit installée. Si nous, à ces élections que nous allons, nous étions allés aux élections avec la 5e République, qui donc, si vous voyez, on ne doit pas aller à une élection 6 mois d'avance et on toilette les tests fondamentaux. C'est là où il s'agit. C'est-à-dire le principe de la situation est toujours verrouillé et violé par le régime RPT Unir. D'accord. C'est l'essentiel que je voulais dire.
D'accord.
Merci.
Merci beaucoup, Pélé, pour votre intervention. 22 21 33 114. Allô?
Allô?
Oui, bonjour, madame Essie.
Oui, bonjour. J'ai eu la chance de rentrer alors que j'ai plus de crédit. Mais bon, je vais aller vite.
D'accord.
Bonjour à vous là-bas. Là.
Oui, bonjour.
Oui, vous avez quel problème? C'est-à-dire les Togolais, les journalistes, tout ça là. Vous avez quel problème dans ce pays? Il s'agit de quoi? Il s'agit des gens qui ont braqué la République depuis 63, non? Parler de ça aussi. Et puis maintenant, mon frère Firmin nous dit et il faut que les autres fassent attention et qu'ils vont disparaître, tout ça là. Le RPT a mué en uni en 2002, les jeunes, tout ça. Les jeunes n'ont qu'à rester dans leur parti uni et nous foutre la paix. Il s'agit de quoi? On a dit un mandat de 5 ans, non? Quand le président est arrivé en 2005, comme il est arrivé, il nous a promis les réformes démocratiques en 2008 pour qu'on profite tous des biens de la République. Il n'a pas fait. Maintenant, la PG lui donne droit jusqu'en 2015. Firmin et les autres, là, parlez de ça aussi. Hein? Et on a demandé quoi à qui dans ce pays pour que vous donnez des conseils politiques, tout ça là, aux gens qui ont créé le parti depuis 90, depuis 1980. Pardon, laissez-nous en paix, quoi.
D'accord. Merci beaucoup, madame Essie, pour votre intervention. 22-21-33-114.
Allô? Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va, c'est monsieur Mautor.
Oui, monsieur Mautor.
Oui.
Allez-y.
Vous savez, c'est que je ne comprends pas les analytiques, bien sûr, votre partout. Toujours, c'est pour critiquer l'opposition. Le pouvoir qui est en place, qui a organisé une élection frauduleuse pour légaliser leur constitution. Vous n'en parlez pas. C'est ce qui s'est passé le 29. C'est pas une élection. Monsieur Pimer vient de parler de l'ANC en Afrique du Sud. Est-ce que l'Afrique du Sud et au Togo, elles sont transparentes au Togo? L'Afrique du Sud, on a fait une élection transparente là-bas. ils sont passés par sondage et c'est réussi aussi. Ce qui se passe au Togo, c'est du mépris à l'état de l'opposition. Le pouvoir togolais ne respecte jamais l'opposition. Voilà ce que un président qui est venu au pouvoir, il a fait tout pour rester au pouvoir. C'est ruse. Vous gâtez le pouvoir en place. Vous n'en parlez pas. Vous critiquez le pouvoir. C'est pas bon. Merci pour l'émission.
Allez, bonne journée. 22 21 33 114 91 36 63 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir au Club de la Presse. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô?
Oui, Pélé qui revient.
Oui, Pélé.
Oui, moi ce que je voudrais vous dire, il faut qu'on fasse attention aussi. Parce que nous voulons la démocratie d'abord dans le pays. Et soyons sérieux, si unir grand parti politique, c'est qu'il est grand, il n'a qu'à respecter le peuple. On ne parle pas de l'opposition. Pour l'opposition, c'est des partis politiques. Il n'y a rien pour ça. Mais qu'est-ce qu'il fait pour le peuple même? Si un parti qui, en 2007, a eu 50 sièges, en 2013, a eu 22 sièges, en 2018, a eu 77 sièges, en 2024, a eu 28 et 108 sièges, qu'est-ce qu'il fait dans Lomé là? Qu'est-ce qu'il a pu faire là, Lomé? Mais regardez Lomé! Vous voyez, vous avez pris tout. Il y a tout. Toutes les institutions sont dans la main de Fon Yassoumbé. Qu'est-ce qu'il fait avec maintenant? Mais Patrice Talon n'a rien avant qu'il est en train de construire le quartier de changer. Vous voyez, mais construisez le pays au moins. On ne le sait pas. Mais Togban, Tchatcha, t'es amené Lomé. Il n'y a même pas, il n'y a rien. Lomé est tout comme. Il n'y a rien dans Lomé.
Ah, d'accord. Voilà, merci beaucoup. 22 21 33 114 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse de ce vendredi. Allô?
Oui, allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Votre nom?
C'est Monsieur Atsou.
Monsieur Atsou, vous nous appelez de quel quartier?
Oui. J'appelle de Tocoin Séminaire.
Tocoin Séminaire, allez-y.
Bonjour, plateau.
Oui, bonjour, bon, allez-y.
Merci, je vous suivais un peu, je voulais intervenir aussi.
Oui, allez-y.
Et j'ai écouté les intervenants, ceux qui sont en plateau, et à chaque fois, quand moi j'écoute votre émission, la plupart du temps, les invités ne font que s'attaquer à l'opposition. Le pouvoir qui est là depuis un moment, depuis des décennies, et qui ne fait tout pour écarter les opposants. On ne leur dit rien. Quand vous venez, vous ne les créditez jamais. Les vols, les pillages du pays, vols électoraux, tout ça là. Vous ne les critiquez pas, vous venez, vous en prenez aux opposants à chaque fois. Mais on ne comprend pas ce qui se passe. Ce qui s'est passé cette année, est-ce que c'est d'après vous? Vous aussi, vous êtes des journalistes et vous êtes appelés à observer les choses. Ce qui s'est passé cette année, est-ce qu'effectivement il s'agit des élections? Puisque, au vu de tout le monde, les gens ouvrent les yeux, ils sont, on ne sait pas si c'est les
plus. Oui, monsieur Atsou.
On les photographie. Ils disent rien.
Monsieur Atsou.
Ils ne disent absolument rien.
Oui, monsieur Atsou. Monsieur Atsou. Monsieur Atsou, s'il vous plaît, vous m'écoutez.
On ne va pas en compte. Donc, il faut tout. Maintenant, vous venez et vous critiquez les gens. Mais allez, si j'ai avec des gens qui ne cessent de voler et qui font tout pour ramener.
Monsieur Atou, allô? Il est parti. 22 21 33 114 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse de ce vendredi. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, c'est Kamel FM.
Oui, oui, votre nom c'est?
Oui, c'est Natéba.
Oui, Natéba, allez-y.
Oui. Je voudrais intervenir sur ce que Napoukoura dit. La main de vous. À même d'œuvre aujourd'hui, il n'y en a pas. Ça, il faut le dire clairement. Et puis, quand vous sillonnez le pays, j'avais dit qu'il faut payer les tracteurs pour déposer. Au moins, on peut payer les tracteurs et labourer. Et maintenant, on peut mettre un herbicide. Et puis, bon, on va se débrouiller comme ça pour vivre. Ce qui va se passer dans les années à venir, c'est la catastrophe pour la population. Maintenant, sur l'urbanisation, l'État prend des terrains où il n'y aura pas d'inondation. Mais l'État, le même État laisse la population va payer les terres dans l'eau. Vous voyez, et après tout, l'État vole au secours. Je ne sais pas si ce système produit et de l'argent à l'État. Mais on va faire des dépenses inutiles alors qu'on pourrait être là.
et quelque part. Maintenant, on appelle les gens de faire des travaux, on fait des travaux, ça ne marche pas. C'est vrai, l'inondation, ça doit arriver comme les uns les autres l'ont dit. C'est des cas majeurs. On ne peut pas, on peut prendre tout le pays. Notre Togo là, on peut prendre ça d'ici demain. On ne le souhaite pas, mais c'est la nature qui peut faire ça. Maintenant, sur le plan politique, tout ce que nous disons, que ce soit inédit, moi je ne sais pas, il faut laisser le temps au temps. Laisser que les Togolais se battent. Ils n'ont qu'à laisser le temps à Dieu. Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Merci et bonne émission.
Merci beaucoup, Natibaz. Je pense que nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission de ce vendredi 22-21-3314.
Allô? Oui. Bonsoir.
Bonsoir. Comment vous allez?
Ça va, c'est Aris à l'appareil.
Aris, vous nous appelez de quel quartier?
Oui, j'appelle de Daoulato.
À Daoulato, allez-y.
Allô?
Oui, allez-y, je vous écoute.
Allô?
Oui, je vous écoute, allez-y.
Oui, écoutez, je voudrais participer au débat pour parler de ce que vous avez parlé sur le fait que certains boycottent les sites. En toute franchise, vous êtes des journalistes, vous êtes libre de débattre et de porter votre analyse. Mais en même temps, je voudrais qu'on soit un peu objectif pour comprendre que ceux qui militent dans les partis politiques, qui prennent des décisions, ne sont pas moins intelligents. Parce que j'ai entendu sur le plateau certains parler d'intelligence. Donc, des gens qui ont créé des partis politiques et qui animent ces partis politiques ne sont pas moins intelligents. Donc, moi, je ne sais pas le fait de siéger ou de ne pas siéger, ce que ça change. Parce que si on peut le prouver, ou on prouver à tous les Togolais, que le fait que ces deux députés là refusent de siéger, ça empêchera à ce que le régime puisse faire en sorte que les inondations qui gênent les Togolais, les écoles qui sont en dégradation, les routes qu'on n'en a pas, tous les problèmes qu'on a au pays, le problème de la vie chère, si on pouvait me démontrer que tout ça là sera réglé si ces deux députés là siègent là, moi je vais me concentrer sur ce débat-là. Maintenant, pour le reste, je voudrais dire que cela ne doit pas éclipser le vrai débat. Aujourd'hui, on a une nouvelle constitution. Fou, combien de personnes sur le plateau là-bas, je ne sais pas, on n'a pas cette constitution. Personne ne débat sur ce qui est écrit dans cette constitution. Aujourd'hui, on parle de deux députés qui ont refusé de siéger, comme si tout le Togo, le problème du Togo se revenait à ça. Je suis désolé.
Monsieur Aris, nous avons parlé de beaucoup de sujets.
Vous avez dit un peu aujourd'hui, vous-même personnellement, et que tous les deux jours passés, on a parlé de ça sur votre plateau, sur le fait que l'ANC aurait pris la décision de ne plus boycotter les élections. Je pense que vous avez dit ça plusieurs fois cette semaine. Vous l'avez dit ça aussi aujourd'hui. C'est ça, non?
Oui, justement, puisque ça a été dit même d'ailleurs à une conférence de presse.
Non, je pense que c'est une erreur. La résolution de l'ANC lors de ce Conseil national n'a jamais dit qu'ils ne boycotteront jamais d'élection. C'est une recommandation d'une des fédérations de l'ANC.
Moi, j'étais à une conférence de presse où M. Jean-Pierre Fabre l'a bien dit.
Ah bon?
Oui.
Moi, je pense que c'est une recommandation d'une fédération.
Non, c'est pas lui. Monsieur Harris, non, c'est pas ça. J'étais à une conférence de presse et j'étais là avant que qu'on ne le dise. Je pense que merci beaucoup, Monsieur Harris. Nous allons revenir en plateau, chers confrères, pour faire un tour de table, pardon, et quitter ou clôturer cette émission. Alors, chers confrères, Francisco, vous avez écouté les uns et les autres alors se prononcer sur l'actualité telle que nous l'avons débattu aussi au Club de la Presse. Et quelle est votre réaction?
Oui, bon, vous savez, les auditeurs, ils ont, la possibilité de repousser la réflexion plus loin que nous, surtout qu'ils nous suivent et ils peuvent facilement déceler ce que nous n'avons pas pu dire ou bien ce que nous avons dit d'excès. Et c'est ça même le débat et c'est pourquoi ils sont là également pour intervenir et pour nous permettre de choses. Vous savez, pour l'affaire des inondations, on l'a dit aussi, nous avons des contrats que nous faisons avec des sociétés. Quand je dis nous, le gouvernement, d'accord ? Et dans ces contrats, il y a des clauses. Il y a ce qu'on appelle par exemple la garantie décennale, d'accord ? Même c'est pour d'autres, c'est au-delà de 10 ans, même jusqu'à ailleurs dans d'autres pays, 60 ans même après, on interpelle les sociétés pour leur responsabilité dans la chute, par exemple, d'un ouvrage. Ici, les gens sont devant nous, les mêmes personnes, on continue de leur donner les travaux, ça ne marche pas, et on est là, on les regarde. C'est comme si l'État a la volonté de jeter l'argent et par la fenêtre. Sinon, il faut rompre avec ce système, lorsque désormais on fait des contrats avec des gens, qu'on puisse insérer et des garanties. Vous allez voir, vous prenez la nationale numéro 1, par endroit, la route devient comme, les nattes qu'on est en train de plier. On appelle ça les ornières. Les ornières, c'est souvent défaut de la qualité du bitume utilisé. Ce n'est pas le traitement du sol, ni le poids des camions qui passent là-dessus. Parce que nous avons dans d'autres pays des camions qui pèsent plus que ce que nous transportons, ce qui passe sur les routes, alors que les autres n'ont pas fait les routes avec l'acier. Ils ont fait les routes avec les matériaux et voilà. Donc, il va falloir que notre État mette véritablement en marche tout ce qui doit garantir les travaux publics pour qu'on ne continue pas de vivre ces états.
Merci beaucoup, Francisco. Oui, monsieur Anani.
Parce qu'il y a quelque chose que nous devons comprendre. Lorsqu'on est leader, on est appelé à diriger un groupe de personnes, un peuple. Et si on est leader, on doit écouter. Si on est leader, on n'est pas exemple de critique. Les gens peuvent voir la manière dont tu gères les choses et te dire, bon, ça ne va pas. J'ai entendu certains auditeurs dire que, bon, voilà, nous nous attaquons tout le temps à l'opposition. Écoutez, la politique en soi, c'est une science. Et je ne pense pas que le meilleur politicien, lorsqu'il sera au pouvoir, il va se dire, bon voilà, moi je veux quitter à tel temps. Le meilleur politicien fera tout pour garder le pouvoir. Mais toi qui t'opposes à lui, qu'est-ce que tu peux faire? Quelle est ta stratégie pour l'empêcher de garder le pouvoir? Certains me parlent de vol, mais même pour aller voler, il faut faire un plan, il faut avoir une stratégie. Mais là, il appartient à celui qui sera victime de vol de faire en sorte que celui-là qui vient voler ne puisse pas voler. Alors, quelle est la stratégie que l'opposition propose? Qu'est-ce que l'opposition fait aujourd'hui? C'est vrai que les années précédentes n'ont pas été ce qu'il voulait que ça soit. Aujourd'hui, quel est ce renouveau-là qu'il nous propose? Qu'est-ce qu'il peut faire pour empêcher ceux-là qui sont dans cette logique de garder le pouvoir, de ne plus le garder? Voilà, c'est ça.
D'accord,
c'est de ça qu'il s'agit.
Finalement,
donc, moi, je voudrais dire que, vous savez, en politique, il y a quelque chose de fondamental qui compte, le temps. Vous savez, si Adema était encore vivant, vous suivez ses discours, quand il parlait de la guerre d'Indochine et tout ça, en 2024, il lui sera difficile de parler encore de la guerre d'Indochine. Parce que les jeunes qui sont là ne connaissent pas cette histoire de guerre d'Indochine. Ils vont être tellement fatigués de ce discours. Mais quand vous voyez un peu les discours des opposants des années 90, et seulement alternance, le parti au pouvoir, ainsi de suite, MPT uni. Et aujourd'hui, en 2024, on tient encore le même discours. Vous savez, il y a quelque chose qu'on doit savoir. Avant, le monde était tellement clivant. Le clivage existait. Aujourd'hui, il y a moins de clivage. Si on ne s'en aperçoit pas, on ne fera pas une bonne politique. Si on ne s'en aperçoit pas, on va échouer dans les démarches. Si on ne s'en aperçoit pas, on va aller aux élections, mais on va toujours perdre. Si on ne s'en aperçoit pas, le monde va évoluer sans vous.
D'accord. Et Germain,
et moi, j'aimerais juste dire que nous ne parlons pas de l'opposition. C'est l'opposition qui crée l'actualité. Le fait de ne pas aller à l'Assemblée, c'est une actualité.
Tout à fait.
On en parle, c'est pas qu'on parle de l'opposition, non.
La preuve est que nous avons parlé de d'autres sujets.
Voilà, avant. On a créé l'actualité, donc on peut en parler, mais après moi je vais quitter la politique pour revenir à la semaine de l'intelligence artificielle. Il se passe énormément de choses à l'hôtel de février, l'accès est libre. Et même les enfants de 9 à 12 ans ont eu des ateliers à animer à la salle Faza où il y a des expositions assez intéressantes, hein, au-delà des rencontres, des panels, des échanges.
D'accord.
Et il y a assez de jeunes Togolais des start-up qui ont des choses extraordinaires à découvrir. Et j'espère que certains auront le temps d'aller avant demain soir, parce que demain soir s'achève à la première édition de la semaine de l'intelligence artificielle. Je profite pour saluer les initiateurs. Jérôme Ribeiro de HumanAI, le docteur Malik Maurice Mozou et les partenaires.
D'accord. Merci beaucoup Germain Pouli alors d'être passé dans cette émission. Merci. Francisco Napokoura, merci d'être passé dans cette émission. Monsieur Anani, merci à vous. Firmin Takouagbo, merci d'être passé dans cette émission. Michel Touriga a assuré la mise en onde de cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis, puisque ça fait toujours plaisir d'être avec vous et d'animer ce débat avec vous. Et on se retrouve lundi, puisque nous sommes à la fin alors de la semaine. On se retrouve lundi à 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. Et d'ici là, portez-vous bien et passez un bon week-end. Au revoir.